Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Okapi Service. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission spéciale consacrée au forum aux états généraux de l'agriculture. Quelles sont les résolutions qui ont été adoptées à l'issue de ces états généraux? Eh bien, nous allons les découvrir avec plusieurs intervenants dans cette émission de la vie au quotidien Okapi Service. Nous recevrons tout à l'heure le professeur Apollinaire Bilonso, directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, Modeste Kisiangala Moke, hydroclimatologue, Guy Bompate Bolunda, directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, le professeur Céline Paulet, rapporteuse du Forum des États généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo. Eh bien, vous avez des questions sur les États généraux de l'agriculture, comment promouvoir, développer l'agriculture en République démocratique du Congo. Vous pouvez participer à cette émission en appelant au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Marcel Ngombo coordonne cette émission. Tati Mapoukou assure la réalisation. Il est assisté des Célestes. Voilà. De Céleste Massoudi. Voilà la technique. Nous avons Jean-Noël Mokondo au micro. C'est Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission Okapi Service, qui s'intéresse aux résolutions des états généraux de l'agriculture. Comment promouvoir l'agriculture? Comment relancer l'agriculture en République démocratique du Congo? Eh bien, le ministère de l'Agriculture a, nous rappelons que ce ministère avait convoqué du 27 au 29 septembre dernier les états généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le Premier ministre avait indiqué que son équipe gouvernementale a levé l'option de ne pas reposer toutes les actions de développement de la RDC sur les recettes générées par les mines. Il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Les résolutions de ces assises doivent servir au décollage du secteur agricole, considéré comme socle du développement socio-économique, à en croire les spécialistes. Alors, quelles sont les résolutions de ces états généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo? Je vais vous inviter d'abord à suivre l'adresse du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui s'est exprimé lors de l'ouverture de ce forum. Suivez.
Mon gouvernement a clairement pris l'option de ne plus reposer tous ses espoirs du développement national uniquement sur le secteur des mines. Désormais, aux côtés notamment du tourisme, de la transition écologique, l'agriculture redeviendra et réellement dans ce pays la priorité des priorités. Pour y arriver, le gouvernement lancera bientôt une campagne forte en faveur de l'agriculture. D'ores et déjà, il est prévu dans les jours qui viennent la création d'une grande banque nationale de développement qui aura entre autres pour vocation de financer le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. C'est dans ce contexte que le gouvernement lance un appel à tous les cadres de ce pays de se préparer d'ores et déjà pour que chacun se construise un toit et un champ au village.
Bien, c'était là l'adresse du Premier ministre à l'occasion du lancement du forum, disons, des états généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo. Voilà, une banque agricole sera mise en place et il faudrait que chacun puisse penser avoir un toit et un champ au village pour que l'agriculture devienne la priorité des priorités. Nous allons accueillir nos invités. Et tout à l'heure, vous voulez participer à cette émission, vous avez des questions, des préoccupations sur comment relancer le secteur agricole en République démocratique du Congo, eh bien, appelez déjà au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service @radiookapi.net. Donc, comme je le disais, le souhait du gouvernement congolais est que, n'est-ce pas, que le sous-sol, disons, l'agriculture, le sol prenne sa revanche. Sur le sous-sol, on ne doit pas toujours continuer à compter sur les mines pour développer ce pays, mais nous devons tout faire pour relancer le secteur agricole. Alors, je vais vous proposer un vox pop que Tati Mapuku avait organisé à l'occasion, après la clôture de ce forum. Les gens se sont exprimés là-dessus, les gens ont donné leur point de vue pour dire voilà ce que nous pensons, ce qui doit être fait pour développer le secteur agricole dans notre pays. Eh bien, il y a eu des idées à gauche et à droite, les Congolais se sont exprimés là-dessus. Eh bien, nous allons écouter leur point de vue. Vous avez également des préoccupations, vous avez également des points de vue par rapport à ce qui doit être fait pour développer les secteurs agricoles dans notre pays. Eh bien, le standard est déjà ouvert, il suffit de composer le 081 890 63 94 pour participer à cette émission. Je vous invite à présent à suivre les avis des uns et des autres au micro de Tati Mapuku.
Deuxièmement, l'appui institutionnel à travers, bien sûr, nos élus et tout le monde qui peut avoir la possibilité. Aujourd'hui encore, COPAGEL parle de projet loi sur la création et l'organisation du cadastre agricole. Pourquoi ? Nous évoluons dans des zones minières. Vous trouverez qu'il y a cadastre minier, il y a cadastre foncier, il y a cadastre aujourd'hui de foresterie, mais il n'y a pas cadastre agricole. Ça fait qu'on peut parler de l'estimation d'autant d'hectares de terres arables qui sont disponibles, mais peut-être nous-mêmes les agriculteurs, on pourra dire que c'est faux ou c'est non. Pourquoi ? Parce que nous vivons d'autres réalités sur terrain. Là où il y a des carrés miniers, moi, en tant que paysan, en tant qu'agriculteur, je ne sais plus accéder à mes terres, à la terre de mes ancêtres. Quand vous cultivez, à un moment donné, on vous dit qu'ici, il y a un permis de recherche d'une entreprise minière.
Donc, vous êtes contraint d'arrêter.
Oui, le permis de recherche. Ou peut-être vous aviez investi plus de 5 ans là-bas. Et le lendemain, on vient vous faire sortir sans toutefois vous demander ou sans toutefois vous indemniser. Et ça fait que l'agriculteur, chaque jour, ils subissent des chocs et des menaces. Et là, s'il n'y a pas de mécanismes qui sont plus présentement, je pense à la longue, on va arriver dans le métayage. Et ça, nous sommes venus demander à nos élus de voir comment ils pourront revisiter les permis de recherche, donc les délais octroyés aux permis de recherche qui octroient aux opérateurs miniers. Mais aussi, en tant que coopérative agricole, on est en train de constater qu'il y a plusieurs concessions agricoles.
À l'état d'abandon.
À l'état d'abandon, des superficies qui appartiennent à des X, Y, à qui on a octroyé plus de 10 000 hectares. Et il est incapable même de mettre en valeur 10 hectares. Mais un paysan souffre, il peut faire 20 à 30 km pour aller chercher où il va cultiver. Et il y a la terre tout autour de son village qui chôme là-bas. Est-ce qu'avec nous comptons qu'à travers le cadastre agricole, on pourra résoudre tout ce problème-là? C'est pourquoi on est venu pour solliciter l'implication de tout le monde, parce que ça fait au moins 3 ou 4 ans que je porte cela comme proposition. Et c'est un souhait pour nous, si avec ces assises ici, et on l'a jeté en tant que coopérative dans nos commissions, j'étais dans une commission de production et accès aux terres. Donc on espère très bien que les autorités qui ont organisé ces assises, mais aussi qui comptent sur les différentes personnalités qu'ils ont invitées, parce qu'ici ce n'était pas tout le monde qui était invité, donc il y a les gens à qui le gouvernement congolais a compté que ces gens-là peuvent donner des solutions. Alors nous attendons que vraiment qu'on puisse avoir notre cadastre agricole, ça pourra résoudre beaucoup de problèmes. Mais aussi, on a plaidé pour l'intervention dans le cadre de maladies phytosanitaires. Aujourd'hui, on trouve des problèmes de COVID-19 où le problème de santé publique préoccupe beaucoup plus les autorités, il y a les cadres stratégiques, des ripostes, de ceci, en oubliant qu'au niveau de l'agriculture, je donne l'exemple de la chenille légionnaire. Si cette chenille légionnaire n'intéresse personne et il n'y a rien qui est fait au niveau du gouvernement, de considérer cela comme parmi tant d'autres, parmi des urgences sanitaires, au même titre comme les urgences sanitaires, le cas de Covid-19, je pense à la longue, là où nous irons, on va être des agriculteurs par histoire. Mais nous sollicitons cela et c'est pourquoi nous sommes là et nous comptons à notre gouvernement, au président de la République, aux organisateurs. Quand même, ce n'est pas de l'aventure parce que nous venons de très loin, on a abandonné des maisons, on a abandonné nos agendas pour venir défendre la cause du pays.
Bien, c'était là plutôt Madame Lydiane Nabambi Nyembo, membre de la coopérative Aide Agricole, qui nous présentait les différents produits qui sont cultivés et transformés dans le Haut-Katanga. Elle a fait également allusion aux difficultés liées à l'évacuation des denrées, des produits alimentaires ainsi que des maladies qui affectent les secteurs. Alors, nous allons accueillir à présent l'ingénieur Justin Chisugi. Il est membre du secrétariat technique de la commission qui a organisé les états généraux de l'agriculture en RDC. Monsieur Justin, ingénieur Justin Chisugi, bonjour.
Bonjour, 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 monsieur.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Alors, d'entrée des jeux. Alors là, vous êtes à côté d'une radio. Si vous êtes à côté d'une radio, veuillez vous en éloigner pour éviter les sifflements que nous avons à l'antenne.
Oui.
C'est tellement désagréable. Okay. Veuillez vous éloigner de votre poste récepteur.
Ok, c'est bien fait.
Voilà.
Ok, merci beaucoup, merci pour cette émission.
Alors,
on attendait vraiment un relais par rapport aux travaux qui ont été organisés lors des états généraux de l'agriculture.
Ingénieur Justin, alors dites-nous, quelles sont les résolutions de ces états généraux? Disons, il y en a plusieurs, mais on peut connaître les résolutions les plus importantes qui ont été adoptées.
Non, mais il faudra peut-être rafraîchir les auditeurs, parce que le problème, ce n'est pas de donner les résolutions, les recommandations qui ont été arrêtées, il y en a plusieurs, mais il faudra plutôt les recadrer dans les différentes thématiques qui avaient été mises en place par rapport aux questions qui devraient être débattues, c'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'il y a les recommandations qui ont été formulées sont en relation avec l'accès d'abord des produits agricoles au marché, c'est les recommandations par rapport au financement du secteur agricole, des recommandations relatives à la coopération agricole, à la coopération terrestre sur le plan agricole, des recommandations liées à la production agricole et à la protection des végétaux. Donc toutes ces recommandations ont été compilées. Il faudra qu'il y ait un document final finalement qui aura nettoyé toutes ces recommandations pour donner le meilleur de nous-mêmes afin de doter le pays d'une vraie note de politique agricole telle qu'elle a voulu le ministre de l'Agriculture, son Excellence, Désiré Mzinga Birianze, sous la conduite chef de l'État et du Premier ministre. Donc un peu c'est ça. Si nous commençons à faire défiler toutes ces recommandations, on ne terminera jamais cette émission. Voilà un peu, dans le prime abord, ce que je voulais dire. Voilà un peu.
Bien. Alors, dans l'ensemble, quels sont les points saillants sur lesquels les échanges ont porté durant ces états généraux?
Le point saillant, je rentre toujours, comme je viens de le dire, dans les différentes thématiques. Si je rentre, par exemple, à l'accès sur le marché, nous avons des problèmes qui ont été soulevés par rapport à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez un problème lié d'abord à l'enclavement des zones de production agricole. C'est un des problèmes très sérieux dans ce pays, c'est que il faut savoir que le producteur agricole, bien qu'il travaille dans de très mauvaises difficultés, il a besoin des routes de cet agricole pour évacuer sa production afin d'atteindre le milieu de consommation. Ça, c'est un problème. Au niveau, par exemple, de la production du marché des produits agricoles. Il faudra par exemple organiser des campagnes agricoles en province, localiser les sites, les dates, et respecter les mesures, les prix, tout ça. Donc c'est des problèmes qui ont été soulevés. Si vous entrez par exemple dans la question de la production agricole, au niveau de la production agricole, vous avez cette question liée par exemple à la protection des végétaux. À la protection des végétaux, ce sont des normes. Les normes doivent être respectées pour que nos produits soient éligibles sur le marché. Mais aussi, les problématiques qui ont été soulevées le plus, c'est beaucoup plus ce qui est lié à la baisse systématique de la production vivrière et des filières d'exportation. Vous savez que le Congo a été un des pays, depuis l'indépendance, qui était aligné sur les grandes nations d'exportation des produits agricoles, notamment les cafés et les cacao. Il y a aussi l'abandon des plantations, qui jadis qui étaient tenues par les colonisateurs. Il y a eu des usines de fermes. Et puis, il y a un déficit chronique de l'effort. ingénieurs techniques. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont été développées et l'on recommandation sur le papier. Il y a la question de la coopération extérieure. Au niveau de la coopération extérieure, vous savez que le Congo est aujourd'hui ratifié beaucoup d'accords internationaux en matière de secteur agricole. Et là, nous devons planifier pratiquement aujourd'hui notre politique de coopération en matière agricole. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'il faudra qu'il y ait une coordination non opérationnelle dans la mise en œuvre et suivi de façon de tous les projets agricoles.
Bien, beaucoup ingénieur, ingénieur Justin.
Ont été alignés dans ce pays, mais jusqu'à l'instant, ils ne sont pas encore bien connus par rapport à ce qu'ils ont attendu de la population. Donc, c'est tout ça l'ensemble de toutes ces matières qui ont été développées. Voilà un peu, je m'arrête là-bas.
Et d'accord. On va accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne Raphaël Kanyangala, depuis Bounia, et le chef des travaux, Toupila, nous appelle de Kinshasa. Raphaël, bonjour.
Oui, bonjour, aujourd'hui, Daniel, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au développement de l'agriculture dans notre pays?
Cette idée est magnifique. Vraiment, nous félicitons Monsieur le Premier ministre d'avoir initié cette idée. Mais ce que nous allons déplorer, que si cette idée sera éparpillée dans toutes les provinces et dans tous les coins, dans les milliers de réquilés de la RDC, là, ça sera mieux qu'au lieu de parler juste au bureau au moment où le travail ne pourra pas se faire dans tous les coins. Parce que partout en RDC, on trouve des sols qui sont très, très, très riches. Mais si on reste avec cette idée à la direction, là, je pense que ça ne sera pas bien évolué comme nous entendons.
Bien, merci. Chef des travaux Toupila de Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Alors, à l'issue des états généraux sur l'agriculture, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la relance de l'agriculture dans notre pays?
Bon, moi je pense que j'avais deux préoccupations par rapport à ces états généraux. Je vois dans certains sites, vous prenez par exemple les études menées par les professeurs Apollinaire Bilosso, ainsi que les études menées par madame la professeure Marie Nyangé dans l'épaulement dans les forêts de Mayombe à Louki. On essaie de voir que jusque là l'exploitation des forêts est un peu poussée par rapport au reboisement, par rapport aux autres modèles de développement qu'on devrait instaurer dans ces différents points. C'était, avec le prof Bilosso, c'était les forêts périphériques de la ville de Kinshasa. Maintenant, je me dis, il y a des objectifs qu'on est en train de poursuivre, deux objectifs qui semblent contradictoires. Vous avez les objectifs de création de richesses pour les populations locales qui dépendent exclusivement de ces forêts, alors que de l'autre côté, on doit aussi préserver les mêmes ressources naturelles. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement a pris comme précaution afin de concilier les deux objectifs qui semblent finalement contradictoires dans le temps. Bon, la seconde préoccupation, c'est par rapport à l'élevage bovin dans les territoires de Fichy. C'est aussi une préoccupation parce qu'on doit prendre les états généraux, non pas seulement dans le sens général global, mais aussi dans les sens spécifiques. Je pense que les travaux doivent être poursuivis au niveau des provinces, au niveau des territoires, pour enrichir ces états généraux. Bon, vous voyez, depuis 2018, le territoire de Féchi a perdu presque tous les cheptels de plus de 50 000 têtes, alors que ces cheptels avaient créé une classe moyenne. C'était ça la politique du gouvernement du régime passé. On avait envisagé créer des classes moyennes. Voilà les moyens qui avaient permis à ce que le territoire de Féchi ait au moins une classe moyenne qui réponde aux différents besoins locaux. Mais à l'heure actuelle, tous les cheptels presque décimés.
Décimés par quoi?
Par l'épidémie bovine qui avait commencé en 2018. Le chef de l'État, d'ailleurs, en a fait allusion lors d'un conseil de ministres. Malheureusement, on a laissé tomber cette affaire-là. C'est comme si rien n'était. Et la population moyenne, les tenanciers de ces exploitations-là, sont aujourd'hui en train d'errer ça et là. Ils ne se retrouvent plus.
D'accord. D'accord, merci. On va poser la question à l'invité qui nous dira qu'est-ce qui sera fait pour aider ces éleveurs qui avaient presque tout perdu. Ingénieur Justin, vous avez la parole.
Je suis content, je remercie. merci l'auditeur qui a posé cette question qui est d'importance capitale pour l'avenir de notre agriculture et aussi pour le secteur agro-pastoral. Alors, je ne saurais pas parler ici pour les comptes du ministère de la Pêche et de l'Élevage, parce que la Pêche et de l'Élevage avait déjà organisé les états généraux l'année passée. Alors, les résolutions de cette état général de la, du secteur de, la, de l'élevage et de la pêche, nous n'en avons pas vraiment les conclusions pour l'instant, mais ça serait intéressant que l'auditeur puisse consulter le ministère de la Pêche pour savoir ce qui s'était passé. Mais nous pouvons quand même dire quelque chose par rapport à ça, parce qu'il a évoqué une question très importante de changement climatique. Cette question de changement climatique aujourd'hui, c'est quelque chose de très préoccupant dans notre pays. Et il faudra savoir que la RDC a ratifié plusieurs accords internationaux en matière de changement climatique et de lutte contre le changement climatique, et surtout les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nos populations qui vivent en forêt doivent bénéficier d'un bon encadrement, d'une bonne éducation environnementale pour pouvoir préserver les écosystèmes afin de profiter aux générations futures. Cela relève d'une bonne politique qui est aujourd'hui en pleine élaboration au niveau du gouvernement. Et cela, je pense que le cadastre forestier et le nouveau code forestier qui est en train d'être revisité doit prendre en compte toutes ces questions et essayer de voir comment les mesures d'application qui seront mises en place par rapport à tout cela peuvent répondre à ce genre de questions, de préoccupations. Et cela, je pense que c'est bientôt, parce que nous allons inclure ça dans les documents finaux qui seront publiés incessamment. Voilà un peu la question. Comment je peux répondre à cette question.
Voilà, et puis le chef des travaux a souhaité que les discussions puissent continuer, parce qu'il y a encore des sujets sur lesquels on doit discuter et trouver des solutions.
En effet, les discussions doivent continuer au niveau des provinces. C'était une des résolutions qui avait déjà prise au niveau des grandes recommandations dans les différentes commissions. Parce qu'il faut savoir que les états généraux de l'agriculture ne doivent pas être une histoire. Ça fait 30 ans qu'on a organisé les états généraux. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer à rester observateur face à la situation aujourd'hui que connaît le secteur agricole. Dans l'une des recommandations, il a été demandé par toutes les parties présentes de pouvoir finalement établir les états généraux de l'agriculture chaque année. Et ça, c'est une recommandation qu'il faudra nécessairement placer en lettres d'or dans les documents qui seront publiés. Donc chaque année, nous allons demander au ministère de l'Agriculture de pouvoir, tous les jours, essayer de dresser régulièrement un diagnostic de ce qui a été fait, toutes les recommandations qui ont été prises, afin de savoir qui a fait quoi, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et évaluer au quotidien tout ce qui avait été demandé par les parties prenantes. Voilà un peu, et c'est là que ça va être de s'étendre dans les provinces.
Bien, nous allons suivre à présent la réaction du professeur Soumbou Zola. Il est enseignant à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa, qui a souhaité que le vœu du chef de l'État concernant la relance du secteur agricole en RDC soit matérialisé. On l'écoute.
J'ai vu le président de la République, n'est-ce pas, parler, assurer effectivement, et que l'agriculture sera... Comment on dit, la victoire du sol
sur les sous-sols. Tous on a suivi la vidéo, le message lancé par le président de la République.
Je pense qu'il ne va pas l'oublier pendant tout son mandat. Voilà mon petit commentaire, c'est ça. C'est lui qui a la volonté, n'est-ce pas? C'est la tête qui doit la volonté. Nous ne sommes des membres. N'est-ce pas? Nous suivons la tête.
Bien, c'était la réaction du professeur Soumbou Zola. Ingénieur Justin, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour assurer la victoire du sol sur le sous-sol?
Voilà, j'y reviens encore sur ce que j'ai dit. La première des choses ici, c'est ce que nous avons toujours demandé, c'est que le gouvernement doit arriver finalement à respecter l'engagement pris à Maputo et à Malabo par rapport au PDDA. Vous savez, le PDDA marche de pair avec la nouvelle politique de l'Union africaine en matière de développement du secteur agricole. Et il a été recommandé que chaque pays, chaque État membre, dans le cas d'une part du PDDA au niveau de l'Union africaine, puisse atteindre au moins 10% de son budget national qui sera alloué au secteur agricole. Et certains pays ont déjà évolué, je connais des pays qui ont évolué, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et d'autres viennent encore. Mais nous devons encore faire un plaidoyer fort, et c'est là que nous remercions encore le chef de l'État qui nous a demandé de faire un diagnostic sans complaisance du secteur agricole pour savoir ce qu'il faut finalement faire. Parce que le document qui doit être produit doit être quantifié. En quantifiant les documents, nous allons donner au gouvernement la matière nécessaire et le moyen nécessaire de pouvoir allouer les ressources nécessaires pour que, finalement, le secteur agricole puisse prendre les dessus sur le sous-sol. C'est ça ce que nous voulons savoir, nous voulons faire. Donc la première des choses qui doit être faite, c'est de pouvoir financer conséquemment le secteur agricole à des hauteurs qui ne veut pas dire ici d'atteindre 10%. Parce que ce sont des processus, il faut y aller 1, 2, 3 jusqu'à 6. Ainsi, nous allons démarrer convenablement avec les restes de ce qui doit être fait par rapport aux ressources. Voilà un peu.
Aujourd'hui, le budget alloué à l'agriculture s'élève à combien?
Aujourd'hui, bon, je ne sais pas ce qui a été prévu pour l'instant. Nous allons revisiter les lignes parce que ça doit être voté au Parlement d'ici la session d'ici qui a commencé. Mais l'année passée, nous étions à 1,7%. C'était insignifiant. Et nous avons compris qu'il y avait trop de problèmes économiques. Il y avait la crise au Covid. Il y avait tous les défis auxquels le gouvernement devrait faire face. Et nous pensons qu'après relance, parce que nous apprenons finalement qu'il y a des mobilisations conséquentes des ressources au niveau des trésors publics, nous pensons que finalement, le législateur, qui est le Parlement, l'autorité budgétaire, doit allouer un budget conséquent au secteur agricole pour que finalement les credos du chef de l'État, pour que finalement le thème développé pendant les états généraux, clé de la croissance durable, tout ça, et les réduire la pauvreté, soit vraiment une réalité et qu'aujourd'hui on atteigne ne fût-ce que 5% et peut-être dans 2-3 ans, avant la fin du mandat, qu'on atteigne 10%. Et si le chef de l'État a un deuxième mandat, on aura atteint 10% et cela, ça sera à son actif et le Congo va l'acclamer. Voilà un peu.
Bien, au Capi Service aujourd'hui organise une émission spéciale sur les états généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo. Nous allons accueillir à présent le professeur Kisangala, hydroclimatologue. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Bien, alors dites-nous comment relancer, promouvoir, développer l'agriculture dans notre pays dans ce contexte des changements climatiques avec les perturbations des calendriers agricoles qui sont enregistrées.
Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. La relance de l'agriculture dans notre pays, selon les changements climatiques, doit passer par l'introduction de nouvelles semences adaptées aux changements climatiques normalement. Voilà.
Voilà, il faut introduire de nouvelles semences adaptées
Au changement climatique. Il y a un travail qui a été déjà fait dans ce sens depuis 2005 dans notre pays. Les documents s'appellent les PANA, donc les programmes nationaux d'adaptation au changement climatique. Et dans ces documents-là, tout est dit là-dedans.
Est-ce qu'au niveau de centres de recherche agronomique, on a déjà ce genre de semences?
Oui, parce que le ministère d'Agriculture est déjà au courant. Parce que les agronomes ont participé dans ces travaux-là quand nous avions élaboré ces programmes d'adaptation au changement climatique. C'est eux qui ont introduit les semences, les programmes de semences améliorés au changement climatique. Si aujourd'hui, ça ne marche plus avec les anciennes semences, parce que le sol est devenu très pauvre, le climat a changé, la date de reprise de pluie ne coïncide plus avec les calendriers agricoles, tout doit être revu en fonction de ces changements des dates de reprise de pluie dans notre pays. Et n'oubliez pas que dans notre pays aussi, nous avons plusieurs zones climatiques. Tout dépend du coin où nous allons nous retrouver et chercher à adapter, n'est-ce pas, l'agriculture selon les calendriers agricoles en fonction des changements climatiques.
Par exemple, quelles sont les cultures qui sont les plus affectées par les effets du changement climatique?
Bon, il y en a plusieurs. Hein. Vous voyez, dans notre pays, l'agriculture, c'est sur brûler. On doit défricher et puis on brûle, on attend à une telle date, comme c'était dans les temps. Nos mamans cultivaient déjà à partir du mois d'août. On sait que début septembre, la pluie tombe et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein, vous allez attendre les pluies qui vont tomber au mois d'octobre, pendant que les semences et les graines sont déjà sous le sol en train de se griller avec le soleil, et quand la pluie va tomber, ça sera déjà en retard. À ce moment-là, on n'aura plus un bon rendement.
Bien, donc on peut dire que toutes les cultures sont touchées.
Donc toutes les cultures, que ce soit par exemple la plantation de maïs, arachides, le manioc aussi. Bon, le manioc, pas tellement, parce que là, ce sont des boutures, ce ne sont pas des graines qu'on cultive. Hein. Le manioc ne dérange pas vraiment tellement beaucoup, mais plus maïs, arachide, tout ce qu'on peut cultiver avec des graines, normalement, on doit chercher à l'adapter selon les changements climatiques et faire introduire aussi les nouvelles semences adaptées aux changements climatiques.
Donc, on peut dire que ces semences améliorées sont déjà disponibles, ou bien il faut que les centres de recherche, l'INERA particulièrement, se mettent à travailler dessus.
Au ministère de l'Agriculture, il y avait Senasem, il y avait plusieurs programmes là qui avaient des semences améliorées qu'on donnait à l'époque. Il y a tout un programme là et je pense que ce genre de questions, les profs Bilos est bien placé pour répondre à ça, comme moi je ne suis pas vraiment agronome.
On va accueillir Glody Bouanganga de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci pour la parole accordée. Et ce que je peux dire, je ne peux pas être purement technique parce que ceux qui ne sont pas agronomes ne vont pas comprendre. Vous savez très bien, messieurs les journalistes, quand on parle de l'agriculture, il y a deux volets. Il y a la production végétale et il y a la production animale. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission, l'invité se base vraiment sur la production végétale et non sur la production animale. Vous savez sans doute notre pays a en train de traverser des problèmes sérieux à ce qui concerne l'agriculture. Mais le gouvernement, c'est comme s'il n'était pas compte de ça. Par exemple, dans notre pays actuellement, il y a une maladie qui attaque des volailles. On ne dit pas de cela. Vous savez, il y a aussi des maladies qui attaquent l'élevage de l'agro-pastoral, le gros bétail. On ne dit pas cela. Il y a aussi les chenilles légionnaires. On ne dit pas cela. Mais si c'était sur les autres secteurs, on devait attendre des bruits dans les médias. Mais pourquoi dans les secteurs agricoles, on ne parle pas de ça? C'est parce que c'est comme si on ne s'intéresse pas de l'agriculture. Or, si on ne s'intéresse pas de l'agriculture, l'agriculture va s'intéresser de vous. Notamment, si vous savez, dans notre pays actuellement, il y a les carences alimentaires qui se basent à cette période. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas la production. Les champs sont attaqués par des chenilles légionnaires, par des maladies, etc., etc. Donc, on n'était pas compte de ça. Alors, moi, je vais juste vous passer directement la question à M. l'invité qui est là au studio. Monsieur l'ingénieur, vous savez bien qu'à l'heure qu'il est, il n'est plus le temps de parler théoriquement, nous devons être un peu pratiques. Selon vous, en tant qu'ingénieur agronome, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Parce que, vous savez, ce que nous dirige, le gouvernement qui nous dirige, ils ne sont pas des domaines. Quand vous vous disputez avec lui, vous devez être un peu pratique afin de l'amener à la compréhension. Parce que si vous êtes un peu technique, il ne va pas comprendre les choses. Il y a certaines phrases qui sont un peu techniques, il ne va pas comprendre les choses. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement à l'ère actuelle, afin qu'on puisse lutter à la carence alimentaire? Si vous enregistrez à majorité de la population congolaise, ils souffrent de la malnutrition. Parce que les produits de première nécessité, ça augmente du jour au jour, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les produits même importés, les produits ciselés, ça augmente du jour au jour. On ne sait pas, on va manger quoi? Parce que quand vous ne mangez pas, vous n'allez pas avoir la bonne santé. Alors, c'est ça. J'ai une seule question que je vais poser à l'invité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pratiquement? Faut pas être théorique. Ce que nous pouvons faire actuellement pour quitter à ce stade que nous sommes. Vous savez sans doute que la majorité des pays du monde sont développés par l'agriculture. Si nous parlons de la Chine aujourd'hui, la Chine a eu le développement par l'agriculture. Si notre pays aussi prend conscience, vous savez, à l'époque de Mobutu, notre pays était compté parmi des pays qui produisaient des cacao et des cafés. Mais aujourd'hui, dans cette liste-là, on n'existe pas qu'à plus. Alors nous devons être un peu pratiques et non de parler de la théorie, tout ça, là, ça n'a aucun impact. C'est un peu ça ce que j'ai voulu partager.
Merci, Glody Bouanganga. Ingénieur Justin, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur Jeanette, pour la parole. J'ai suivi la question de notre ami qui intervient tout à l'heure là. Il demande que nous puissions être pratiques. Qu'est-ce qu'il faut dire clairement aux décideurs politiques pour que les choses changent rapidement? Voilà un peu ce que je voulais dire. Nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a aujourd'hui une commission nationale en charge de l'organisation des campagnes agricoles en République démocratique du Congo. Quel est le rôle de cette commission? Cette commission a la charge de pouvoir finalement relever les indicateurs d'appréciation du secteur agricole. Pour aller tout droit au but, pour ne pas être technique comme il est dit, je voudrais dire tout simplement que aujourd'hui il est établi que l'unité de mesure de notre secteur agricole, c'est le ménage agricole. Nous avons de ménages agricoles aujourd'hui évalués, aujourd'hui à la date d'aujourd'hui, à 16 millions de ménages agricoles en RD Congo. Dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo, relevés par 364 experts. Alors, il y a eu plusieurs questions qui ont été soulevées par ces ménages agricoles, notamment l'accès à la terre. Les terres ne sont pas accessibles aux petits ménages. Ils ont 0,5 hectares à cultiver. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait 0,5 hectares à cultiver? Qu'est-ce qu'ils produisent? Absolument rien. Ils sont butés à beaucoup de difficultés liées, par exemple, aux roues des recettes agricoles. Comment faire évacuer la petite production?
Ingénieur Justin,
ce sont des choses qu'il faudra résoudre.
Ingénieur Justin, Les auditeurs sont revenus beaucoup plus sur les maladies qui attaquent les cultures et la production, et, disons le l'élevage. Il a par exemple parlé de maladies qui ont attaqué le cheptel. Il y a quelqu'un qui avait parlé d'une maladie affiche, voilà, qui attaquait les bovins. Il y a également les chenilles légionnaires qui attaquent les plantes. Tout ça, c'est ça qui décourage les agriculteurs.
Oui, en effet, aujourd'hui nous avons la question de la chenille légionnaire. Elle est apparue chez nous en 2016. Elle est une chenille d'automne, elle est exotique, elle est aujourd'hui chez nous. Elle se transforme face au changement climatique. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Le ministère de l'Agriculture a mis en place déjà un plan de riposte. Ce plan de riposte regorge les interventions de tout le monde, de toutes les parties. Et aujourd'hui, ce plan de riposte est financé à hauteur de 106 millions de dollars. Mais cela ne peut pas venir du gouvernement. Cela doit venir de tous les partenaires privés, étatiques et para-étatiques. Mais clairement, aujourd'hui, l'encadrement doit être beaucoup plus mené par le service public de l'État qui sont en province. Et nous nous y attelons pour essayer de faire marcher les choses. La chenille légionnaire aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'initiatives privées, d'initiatives au niveau local qui ont été développées par les agriculteurs et ça donne de très bons résultats. Et nous continuons petit à petit, vous savez, une pandémie ou une attaque comme celle de la chenille légionnaire doit être bien menée dans un processus bien pensé et surtout en collaboration avec ceux qui en pâtissent, notamment ceux qui sont victimes, notamment les agriculteurs. Donc cela est déjà pris en compte et le gouvernement s'attelle au niveau du ministère de l'Agriculture pour donner des solutions les meilleures. Nous avons beaucoup de projets
et cette chenille-là, la chenille.
Nous avons des solutions directes que nous pouvons porter à la voie publique. Voilà un peu.
Cette chenille-là attaque beaucoup plus quel type de culture?
Elle attaque pratiquement plus de 80 espèces de cultures et beaucoup plus particulièrement ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous les graminées. Les graminées, c'est le maïs, c'est le sorgho, c'est le riz, c'est le blé. Et aujourd'hui, nous l'avons aussi observé sur les cultures maraîchères. Mais la culture la plus victime normalement aujourd'hui, c'est le maïs qui en souffre. Et aujourd'hui, nous avons des évaluations qui vont dans les 340 millions de pertes qu'on a enregistrées au niveau de producteurs par rapport à ce qui y avait été prélevé l'année passée. Donc, cette chenille-là cause beaucoup de problèmes pour les agriculteurs, surtout pour la céréale qui est le maïs. Et c'est comme ça que ça fait du grand bruit auprès de l'opinion, parce que le maïs est attaqué, la culture principale qui y est dans nos ménages agricoles. Voilà un peu.
Bien, on va accueillir Katia Idekanyuka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Et bonjour aux invités.
Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux états généraux de l'agriculture en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la relance de l'agriculture dans notre pays?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Nous avons salué les résolutions issues de ces états généraux-là. Je ne vais pas revenir sur les maladies qui attaquent le champ comme les autres prédécesseurs l'ont déjà souligné, mais je voulais tout simplement interpeller le gouvernement sur une seule chose. C'est laquelle? On peut prendre déjà des résolutions comme les résolutions là sont établies, mais monsieur Jody, vous allez constater qu'il va se poser un problème sérieux sur la mise en œuvre de ces résolutions-là. Parce que d'ici là, on ne va pas mettre tout en œuvre, on va commencer à se lever d'autres problèmes. Le gouvernement devrait aussi prendre conscience de créer des conditions de vie dans le milieu rural pour permettre aux villageois de se contenter de leur vie du village. Comme nous ici, à Kanyuka, nous pouvons nous contenter de notre vie si les conditions de vie villageoises sont en quelque sorte améliorées, notamment l'ouverture des routes de desserte agricoles. Deuxièmement, faire des champs ou soit une agriculture intensive. Nous envoyer des caterpillars pour faire
des terres. Kachai, là-bas à Kanyuka, quelles sont les cultures qui sont beaucoup plus...
Les cultures qui sont beaucoup plus exécutées ici, monsieur Jody, nous avons la culture des maïs, des manioc. Nous avons la culture des soja. Nous avons la culture de café, de canne à sucre et aussi des ignames. Le riz, pas tellement, c'est ça. Alors, maintenant, beaucoup plus, c'est le maïs et le manioc. Parce qu'avec les ventres affamés, on ne sait pas bien travailler. Mais si on nous donne à manger, monsieur Jody, nous n'allons pas embrouiller le gouvernement à tout moment. Ce que moi je demande, comme c'est le maïs, le manioc, qui constitue la nourriture de base pour les villageois de Kanyuka et aussi le Kasaï central, Il faudrait donc commencer par ouvrir les routes des réserves agricoles, faire des bons champs. La fois passée, j'avais soulevé le problème du projet de champ amorcé par le gouvernement Tshibala, qui est maintenant dans les tiroirs. On n'a même pas soulevé ça. Un bon projet, si on avait fait des champs ici, la culture, 1000 hectares de maïs, parce que c'est un projet de 1000 hectares de maïs, monsieur, je dis, on ne pouvait pas toujours pleurnicher. On dépend de la province du Kasaï, de Tshikapa. Alors, pour que le train aille à Tshikapa, chercher le maïs, remorquer ici jusqu'ici, ça pose des sérieux problèmes. Il y a des taxes que les opérateurs économiques d'ici, du Kasaï central, sont en train de faire face. Et ceux-là qui n'ont pas un capital suffisant s'énervent, se découragent, et qu'est-ce qu'il y a? C'est la catastrophe. C'est pourquoi moi je voulais interpeller à la conscience du gouvernement. Les résolutions sont bonnes, nous les saluons, mais veuillez mettre en œuvre ces résolutions-là pour que nous ne puissions pas toujours vivre dans la faim. Mais si ces conditions de vie-là sont bien créées au village, nous n'allons pas nous contenter de convoiter les citadins. Parce que moi, je suis au village, je vis avec les villageois, mais je ne sais pas aller en ville parce que les conditions de vie ne me permettent pas d'aller commencer à louer des maisons en ville, travailler en ville. Je ne sais pas travailler.
D'accord. Hein? Merci. Merci, Kachai, depuis Kanyuka. Professeur Kisangala, votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Professeur Kisangala, vous êtes là? Allô, professeur?
Ah, il est parti.
Voilà, je crois que professeur Kisangala n'est plus en ligne. Ingénieur Justin, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Ça, c'est...
Ingénieur Justin, vous êtes là? Allô? Ingénieur Justin, allez-y. Allô,
rural. Oui.
Ah oui, allez-y, ingénieur.
Oui, ok, très bien. Alors, la préoccupation de notre frère qui est à Kanyoka, c'est une préoccupation de taille. Et il faut savoir qu'améliorer les conditions de vie dans les binomiliers ruraux aujourd'hui, en proie à beaucoup de problèmes liés à la pauvreté ou à l'enclavement, c'est un processus. Il faut savoir que la volonté peut être exprimée. Mais il faut qu'il y ait un engagement. Et l'engagement, je pense que la convocation des États généraux a été un engagement pris par le gouvernement, par le chef de l'État lui-même, et il a instruit le ministre de l'Agriculture de pouvoir suivre la situation et de pouvoir trouver des solutions à travers les experts qui ont réfléchi aux États généraux pour que ces conditions dont veulent nos populations dans les milieux ruraux soient effectivement garanties. Et nous ne pouvons pas ici commencer à dire qu'il n'y a pas de, suivi. Mais non, il faudra mettre toujours les gouvernements, les décideurs politiques devant les faits. C'est-à-dire que nous avons résolu, nous avons formulé les recommandations, c'est à nous maintenant de les soumettre au gouvernement et de ne les juger qu'aux actes. On ne peut pas dire que non, il n'y aura pas de suivi. Non, il faut juger les décideurs aux actes. Les recommandations seront bien et bien transmises au gouvernement et nous allons suivre maintenant après. On ne peut pas dire aujourd'hui que non, il n'y a pas de suivi. Non, nous transmettons les recommandations et la suite, nous allons la voir. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup.
Bien. Professeur Kisangala, votre réaction. Professeur Kisangala? Voilà, je crois qu'il y a quelques soucis avec professeur Kisangala. Je reviens à vous, ingénieur Justin Jisugi. Le Premier ministre a annoncé la création d'une banque agricole sans pour autant donner les délais. Dans combien de temps? Comment ça va se passer sur le plan pratique? Et alors, on craint qu'il y ait tout simplement des effets d'annonce et puis après, les choses n'évoluent pas. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela?
Non, on ne peut pas, c'est ce que je viens de dire. On ne peut pas juger le Premier ministre qui fait dire que c'est un fait d'annonce. C'est une décision d'une autorité. C'est l'autorité, mais c'est le chef du gouvernement. C'est lui qui décide, c'est lui qui annonce. Nous devons le prendre au mot et le rappeler régulièrement quand les choses n'évoluent pas convenablement. Nous avons connu des banques de crédit agricole dans ce pays. Il faudrait qu'il y ait des mesures d'encadrement pour que finalement les dérapages connus à l'époque ne soient plus d'actualité. Vous savez qu'au-delà de la banque, au-delà de la volonté du gouvernement, au-delà de la volonté des aides politiques, il y a aussi la question d'une conscience nationale. Il y a des gens qui prennent les crédits et quand ils ont les crédits, ils ne sont pas remboursés. Il y a d'autres qui passent par des moyens illicites pour accéder au crédit alors qu'ils ne produisent rien. C'est des choses comme ça que nous devons aussi fustiger. Donc il n'y a pas de raison de dire dire que le chef du gouvernement a annoncé, c'est un fait d'annonce, mais finalement, il n'y a plus rien. Il faudra tenir le chef du gouvernement, au mot qui est responsable, qui est décidé, chef du gouvernement, et rappeler à la conscience nationale de ceux qui sont impliqués dans l'activité agricole. Vous allez chercher un crédit, mais vous devez être conséquent de pouvoir répondre aux recommandations et à tout ce qui est exigence par rapport à l'accès à un crédit. Ça s'est fait ailleurs, pourquoi ça ne peut pas se faire chez nous? Voilà un peu ce que je voulais dire.
Alors donc, à ce point, on peut dire que on peut bien prendre des résolutions, des belles résolutions pour relancer l'agriculture, mais tant que le financement, le budget va demeurer à 1%, alors on ne peut rien espérer.
Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le secteur agricole, c'est un secteur très exigeant. C'est un secteur qui marche en fonction du temps. On ne peut pas décaisser de l'argent aux antipodes des prévisions qui sont dans les secteurs agricoles. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que la saison A commence en 15 septembre. Si on doit octroyer des intrants aux producteurs après le 15 septembre ou en octobre, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Donc le décaissement doit être d'abord à temps et l'investissement doit être aussi disponible et conséquent. Donc c'est un peu ça ce que nous voulons bien. Ce n'est pas que nous demandons 10%, mais il faut que chaque session budgétaire puisse revoir à la hausse les allocations budgétaires au secteur agricole. On est à 1%, demain on passe à 2%. Après 2%, on est à 3%. Ainsi de suite, c'est comme ça que marchent les nations. Voilà un peu. Même ceux qui sont à 10% ne sont pas tous satisfaits. C'est ce qu'on a dit, c'est une recommandation. Il faudra qu'on aille peut-être à 20, 30%, ça dépend. Donc c'est ça, c'est la question de volonté politique, c'est la question du décideur et c'est la question de la conscience nationale par rapport à cette situation. Voilà un peu, monsieur le journaliste.
Bien, il y a Kachaï qui est revenu sur un projet de 1000 hectares de maïs, ce qui a été lancé par le Premier ministre Tshibala. D'après lui, ce projet est resté sans suite. Pourquoi on démarre parfois des projets et on ne sait pas les terminer?
Oui, les projets, parfois, les problèmes du projet, je ne vais pas, c'est pas peut-être l'objet de l'émission. Le projet a toujours eu ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Qui avait élaboré l'étude de faisabilité? Qui avait fait cette étude? Est-ce que 1000 hectares, oui, c'est bien, mais dans quelles conditions? Quelles sont les mesures de faisabilité? Est-ce que c'était prévu comme ça? Est-ce que ça doit être réalisé dans ce sens-là? Donc ce sont des questions comme ça qu'il faudra toujours remettre à la table et la plupart des fois, on ne met pas les experts à contribution. On peut faire son champ, mais il faut mettre en place un expert de la matière pour pouvoir vous guider comment pouvoir faire aboutir un projet, surtout le secteur agricole qui est trop sensible et trop capricieux. Donc, vous pouvez élaborer un projet de 1000 hectares, mais le financement ne vient toujours pas. Parce qu'au fur et à mesure, pendant les processus de production, il y a toujours des problèmes qui se reviennent au pas à pas. Il faudra avoir un financement conséquent, il faut avoir fait une très bonne étude de faisabilité et évaluer au quotidien. C'est pas pour rien qu'on fait ce qu'on appelle les évaluations à mi-parcours. C'est pour savoir si effectivement ce qu'on avait pensé à l'époque avait bel et bien produit de bons résultats. Est-ce que ça pourra aboutir? Est-ce que ça pourra nous donner les résultats escomptés? Est-ce que les objectifs seront atteints? Tout ça, il faudra étudier au quotidien, au fur et à mesure qu'on est en train de suivre les processus de production. Voilà un peu. S'il y a eu, à l'époque, cette question des 1000 hectares de l'ancien Premier ministre Tshibala, il faudra peut-être poser la question à ceux qui avaient rédigé ce projet et savoir qu'est-ce qu'ils avaient pensé, est-ce que c'était bien suivi, est-ce qu'il y avait une expertise qui était bien en place pour encadrer le projet. Ce sont des questions qu'il faut remettre sur la table. C'est tout ça ce qu'il y a comme problème. Il faudra que le projet soit bien encadré, il faudra qu'il y ait une bonne étude de faisabilité. Il ne faut pas seulement qu'on parle de 1000, 10 000, 20 000 hectares tant qu'il n'y a pas une bonne étude de faisabilité. Voilà un peu ce que je peux dire dans ce sens-là.
Bien, alors parmi toutes les résolutions qui ont été adoptées, lesquelles sont beaucoup plus prioritaires?
Ouf. Mais les résolutions, toutes les résolutions ont été prioritaires. Il faudra les dire ainsi. Je vais vous donner une petite anecdote d'un de mes professeurs. Il dit ceci, il dit, il faudra savoir que les producteurs travaillent dans de très mauvaises conditions, avec des outils aratoires rudimentaires, manque d'intrants, il y a cette question de route, il y a cette question de maladie des cultures, il y a cette question de maladie de bétail, parce qu'il faut aussi en parler, il y a cette question de marché, il y a cette question de moyens nécessaires d'accès aux intrants. Mais tant qu'il ne sait pas faire accéder le prix de sa production au lieu de consommation, c'est toujours un problème. Il laissera entendre que la ville de Kinshasa, quand vous circulez dans le point de vente de la ville de Kinshasa, il y a toujours à manger. Il y a toujours à manger. Les produits agricoles sont toujours visibles sur le marché. Mais à quel prix? Or, si les voies de desserte agricole, si les voies d'accès, le bus navigable, toutes les routes, les chemins de fer qui doivent être une priorité chez nous, sont mises en place et sont bien entretenues et bien canalisées vers le lieu de consommation, vous verrez que toute la production qui est ici de nos terroirs va accéder au lieu de consommation et les prix vont baisser. Et finalement, les clients ne diront plus aux oliatés. Voilà un peu la situation.
Bien, merci ingénieur Justin Chisugi. Je rappelle que vous êtes membre du secrétariat technique de la commission qui a organisé les états généraux de l'agriculture. Alors, on va marquer une pause en musique et puis nous allons suivre les informations et après on va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission. Nous poursuivons avec le même sujet. Nous invitons les auditeurs. Vous avez des questions, des préoccupations ou des suggestions par rapport à la relance du secteur agricole dans notre pays. Appelez au 081 890 63 94. Ingénieur, merci. Et... Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Merci de votre fidélité à ce magazine. Aujourd'hui, nous avons une émission, nous organisons une émission spéciale états généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo. Quelles sont les résolutions de ces assises? Comment relancer, développer l'agriculture en République démocratique du Congo? Eh bien, nous allons en parler dans cette deuxième partie de l'émission avec Monsieur Guy Bompaté. Il est directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo. Guy Bompaté, bonjour. Guy Bompaté, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, je suis en ligne.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également le professeur Céline Paulet, rapporteuse des états généraux. Professeur Céline, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
Bienvenue dans cette émission de La Vie au quotidien. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à la relance de l'agriculture? N'hésitez pas, le standard est ouvert. Composez-les 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Urban Scène, votre magazine de musique urbaine. Une vitrine de la scène musicale urbaine sur Radio Okapi. Tous les jeudis et vendredis à 15h30. Le samedi à 20h05. Et le dimanche à 12h10, heure de Kinshasa. Avec DJ Daddy.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission qui s'intéresse aux résolutions des états généraux sur l'agriculture organisée du 27 au 29 septembre dernier ici à Kinshasa. Et au cours de cette cérémonie, le Premier ministre avait annoncé que le gouvernement a pris l'option, a levé l'option de ne pas reposer toutes les actions du développement sur les recettes générées par les mines. Il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol et les résolutions de ces assises doivent servir au décollage du secteur agricole, considéré comme socle du développement socio-économique, en croire les spécialistes. Alors, avant de donner la parole à nos invités, je vais vous demander de suivre la réaction de Monsieur Anissé, agent commercial chez Indigo, une entreprise de vente des produits phytosanitaires, qui souhaite pour sa part que le gouvernement congolais puisse faciliter l'accès aux fermiers, aux outils aratoires et aux crédits. Voilà, vous pouvez, suivons tous ensemble sa réaction.
Nous sommes au stand standard d'Indigo. Indigo, nous sommes dans la vente des produits phytosanitaires, dans la vente des produits de la nutrition animale, ainsi que des semences vivrières, ainsi que des semences de culture pérenne. Entre autres, les palmiers nains. Nous vendons des semences de palmiers nains. Le palmier nain, c'est un palmier qui vous donne des fruits quelque peu charnus, très charnus. Nos semences de palmiers, ce sont des semences améliorées qui sont immunisées contre les maladies qui attaquent le plus souvent les palmiers ordinaires. Entre autres, je vais vous faire voir ça. Les maladies sont là, la ganoderma, la fusariose, ainsi que le complexe pourriture du cœur. Nos semences, c'est ça. En image d'administration, ils sont là.
Et ces semences, oui. Sont des semences produites localement ou
non,
importées?
Non, ce sont des semences que nous importons. Oui, nous importons ces semences. La souche vient de la RDC. Ça a été amené en Asie. Ils ont retraité et puis ils nous ont renvoyé ici. C'est un peu ça. Entre autres, étant donné que la RDC, c'est une terre à vocation agricole avec près de 80% de terres arables, j'aimerais que le gouvernement puisse mettre des moyens financiers à disposition des agriculteurs. Parce que le plus souvent, les engins agricoles, entre autres les tracteurs, se retrouvent entre les temps, entre les mains des ministres, alors que le petit peuple qui fait l'agriculture cherche des tracteurs pour pouvoir labourer. Et labourer, ils n'en trouvent pas. Par exemple, si vous allez dans le plateau de Bateke, en Bakana, moi j'y vais presque toutes les semaines, les gens manquent des tracteurs pour pouvoir labourer. Il n'y a pas de tracteurs. Alors que dans des fermes ou dans des maisons des ministres, il y a des tracteurs qui stagnent, qui ne font rien. Il fallait que l'État cherche à mettre à la disposition des agriculteurs des moyens financiers ainsi que des engins comme des tracteurs, comme par crédit, pour leur permettre de pouvoir rentabiliser leur culture. Et dans les pays organisés, l'État rachète toutes ces cultures-là pour vendre. C'est une manière d'inciter ces agriculteurs-là ou de les motiver à travailler encore plus et à produire encore plus.
Oui, mais en même temps aussi, je sais qu'au plateau de Bateke, il y a des coopératives. Est-ce que vous êtes affilié dans une coopérative? Comment ça marche en termes
bon,
de solidarité?
Je ne suis pas affilié dans des coopératives, mais nous collaborons avec certaines coopératives qui achètent nos semences. Donc ces coopératives-là ont toujours des problèmes. Ils n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir bien fonctionner. Donc si l'État pouvait créer des banques de crédit agricole, mettre à la disposition de tous les agriculteurs, en tout cas avec l'ère, ça sera développé. On ne mettra plus les yeux en regardant vers les diamants, l'or, parce que l'agriculture, c'est plus que les diamants. Le diamant et l'or, c'est pour un temps, mais l'agriculture, c'est pour tout.
Bien, merci beaucoup à Monsieur Anissé qui était au micro de Tati Mapoukou. Professeur Céline Paulet, vous êtes rapporteuse des États généraux de l'agriculture. Votre réaction par rapport à ce que Monsieur Anissé vient de déclarer?
Beaucoup. Dommage que je n'ai pas très bien suivi parce que ça sort entrecoupé. Il y a on n'entend presque pas grand-chose de ce qu'il a dit. Juste les débuts, il a parlé, je crois, des semences. Hein.
Oui, des semences. Oui.
Oui. J'ai suivi un tout petit peu. Malheureusement, ça sort entrecoupé. Je ne sais pas si vous pouvez juste me rapporter ce qu'il a dit en dernier par rapport à cette question, comme ça, moi, je vous propose.
Bon, son entreprise s'occupe de la vente des produits phytosanitaires et des semences, etc. Mais il demande qu'ils soient appuyés, que le gouvernement puisse les appuyer, surtout avec le projet de la banque agricole pour développer leurs activités. Alors, mais il y a un grand problème, surtout par rapport aux semences, avec les changements climatiques, les maladies qui attaquent souvent les cultures. Alors, il semble qu'il faut avoir des semences beaucoup plus améliorées, résistantes aux maladies. Alors, à l'issue de ces assises, qu'est-ce qui a été dit par rapport à cela, à cet aspect des choses?
Ah, merci beaucoup. Par rapport aux semences, en fait, il y a eu effectivement des recommandations faites par les différentes commissions. Je précise particulièrement, c'est la commission production et protection des végétaux qui avait en charge cette question-là liée non seulement à la qualité des semences. Nous avions pu échanger avec le groupe dans la mesure où le directeur de CNASSEM ou le coordonnateur de CNASSEM, je pense, était lui-même présent. Alors, par rapport à cette question liée à la qualité des semences, il est vrai que l'État, en principe, accompagne. C'est ce qui fait que le CNASSEM est là pour assurer cet accompagnement. Mais l'État ne produit pas en quelque sorte les semences, mais il accompagne, je pense. Et il a été décidé parmi les recommandations qu'il fallait opérationnaliser toutes les coordinations provinciales du CNASSEM à travers le pays, parce que il y a aussi le fait que le CNASSEM a existé en son temps avant le découpage des anciennes 11 provinces. Donc comme il y en a 26, il y a des provinces où il n'y a pas ce service-là, et parmi les recommandations, il fallait en fait opérationnaliser toutes ces structures. Ce qui va permettre effectivement de renforcer cette question, mais surtout aussi de contrôler. Il y a un aspect aussi qu'il faut comprendre, c'est que notre pays pendant longtemps a fonctionné sans cette banque agricole et son excellence le premier ministre l'a annoncé. Le pays envisage de créer cette banque agricole pour le pays et permettre effectivement de renforcer les capacités en termes d'accès au crédit, en termes d'accès à d'autres aspects pour mettre finalement, ça pourra aussi permettre de mettre en place un laboratoire national accrédité aux normes de l'ISTA. C'est les normes, on appelle ça l'International Seed Testing Association. C'est en fait l'association internationale d'essais de semences. Et ça va permettre également d'améliorer ce secteur qui, pendant longtemps, n'a pas pu s'asseoir correctement. Donc, je pense que les résolutions de ces États généraux pourront effectivement permettre de renforcer ou d'améliorer la qualité des semences. Quant au calendrier, effectivement, on a aussi pensé qu'avec la question du changement climatique, eh bien, une proposition a été faite de revisiter le calendrier agricole national pour s'adapter au contexte actuel et aussi proposer des espèces résilientes face à cette question. Toutes ces questions-là ont été visitées et donc nous verrons des réponses.
Bien, on va accueillir Simon Mouya de Kananga. Bonjour Simon.
Et bonjour Radio Okapi, bonjour à tous nos invités et tous nos auditeurs de la Radio Okapi.
Quelle est votre question?
Ok, d'emblée, je tiens à signaler à Madame l'invitée que bon, toutes les parties qu'elle est en train de nous donner, bon, à l'envie de parler, c'est palpable. Hein, c'est palpable quand elle parle des banques, des actions agricoles, tout ce qu'elle est en train de parler là. Oui, c'est bon, nous écoutons. Mais le problème ici en RDC, que tout se fait dans les laboratoires. C'est comme dans les secteurs agricoles. Les ingénieurs agronomes ainsi que toutes les parties prenantes réunissent, comme dernièrement le Conseil des ministres concernant le secteur agricole, et ils parviennent à émettre des idées ou soit des hypothèses qui sont du coup, quand on les voit, c'est vérifiable. Alors que dans la pratique, c'est tout autre. Par exemple ici, la situation générale de ma province, Kasaï Central, et du coup, la production agricole ici est assurée par les petits producteurs. Et donc, c'est comme Madame l'invitée vient de le dire, c'est difficile de venir avec les calendriers agricoles, dire non, tu vois, tu veux produire comme ça, il faut cultiver en cette date, il faut faire ça avec le changement climatique observé ces dernières années. C'est difficile parce que eux détiennent leurs anciens calendriers agricoles. Donc, ils ont en train d'exploiter en leur manière et cela nous aide dans la province. Et surtout avec l'État congolais, dans notre province, il n'y a aucune exploitation agricole qui est gérée par l'État. Et donc, c'est difficile avec toutes les décisions prises par le Conseil des ministres qu'on puisse appliquer tout ce qui est prévu là-bas au niveau de notre province. Donc, la question que je voulais revenir pour poser à Madame l'invitée qui vient de terminer là, quelle est la disposition déjà pratique, par exemple, ici, au Kasaï Central, qui peut aider en fait qu'on puisse accompagner les petits producteurs là. Parce que ce sont eux qui détiennent la politique agricole de notre province. Ici, ce sont eux qui assurent la survie de gens ici à Kananga. Donc, ce sont eux qu'on doit accompagner. Alors, quelles sont quelques dispositions pratiques que l'État congolais a prises pour assurer leur production à bon escient, afin qu'ils puissent nous desservir avec les produits agricoles. Merci beaucoup, la Radio Okapi.
Bien, merci. Monsieur Guy Bompaté, vous êtes directeur général de l'Office national des produits agricoles. Vous avez suivi Simon Mouya qui dit que ce sont les petits agriculteurs, les petits producteurs qui produisent dans nos villages. Alors, comment les accompagner à l'issue des états généraux? Qu'est-ce qui a été décidé pour un meilleur accompagnement des petits producteurs?
Écoute, merci beaucoup Radio Okapi. Pour ce qui concerne l'institution que je dirige, l'Office national des produits agricoles du Congo, nous avions pensé, une des résolutions, que créer des coopératives pour encadrer ces petits paysans qui sont éparpillés. Parce que lorsqu'on crée des coopératives, du coup, on aura le temps de suivre et de donner des formations savoir comment orienter les experts pour les encadrer. Voilà, concernant les petits producteurs. Donc, moi, je pense que la résolution est très indispensable, la création des coopératives. Et comme madame a dit, comme le premier ministre a dit qu'on va créer la banque agricole, je crois que c'est un moyen qui va essayer de renforcer, augmenter la production et la qualité des produits auprès des petits paysans.
Professeur Céline, vous avez la parole.
Pour à M. Simon Mouya de Sananga qui a posé la question relative aux petits producteurs. En fait, c'est une réalité. Qu'il soit petit ou gros producteur, il a été résolu d'identifier tous les producteurs, en fait, que ce soit par filière ou par bassin de production. Ça va permettre déjà à l'État d'avoir une cartographie de ces producteurs, mais aussi leur filière. Ça facilite l'accompagnement en ce sens que, avant de pouvoir accompagner quelqu'un, il faut devoir l'identifier, savoir où il se trouve, qu'est-ce qu'il fait exactement. Et ça a manqué un tout petit peu. Et ça va permettre, comme a dit M. Guy Bompas, c'est si on les rassemble ou on les réunit en coopérative, je crois que ça pourra faciliter la lutte contre la pauvreté également, parce que c'est un aspect important, si pas un aspect sur lequel il faut s'appuyer pour pouvoir renforcer ces agriculteurs. Donc, en termes de ce qui doit être fait, il faudra justement que les gens se rendent compte que dans le temps, les choses se faisaient peut-être de manière disparate. Maintenant, il est prévu à travers ces réflexions des différentes parties prenantes que les choses ne vont plus se passer de la même façon. On va d'abord identifier, ensuite accompagner. Bien entendu, il faudra aussi les former, mais aussi instaurer des laboratoires capables de leur permettre d'avoir accès aux meilleurs services liés au secteur agricole. Donc, je pense que pour l'instant, je peux m'arrêter là.
Bien, on va accueillir Jotan Ekofo de Mbandaka. Bonjour. Jotan Ekofo, bonjour. Bien, Ekofo n'est plus en ligne. Je reviens à vous, Monsieur Guy Bompate Bolunda, directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo. Vous avez suivi tout à l'heure, il y a Anissé qui est revenu sur la question des semences. Il faut les vulgariser. Déjà, les SENACEM ne se retrouvent pas partout dans les 26 provinces, c'est ce qui est déjà un problème. Et puis, l'accès aux semences risque d'être difficile à ces producteurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette question-là?
Oui, Radio Caprice, quoi, c'est d'abord, on doit commencer par la vulgarisation, des semences avec, SEMACEM. En tout cas, même si SEMACEM n'est pas partout, mais SEMACEM, il va s'organiser en sorte pour atteindre tous les petits pays, producteurs, en fait que, on arrive, comme madame a dit aussi, on fait la cartographie de ces producteurs. Parce qu'on ne doit pas, il faut qu'on arrive à les identifier. Tel producteur se retrouve, tel coin du pays, tel territoire, et on fait la cartographie de ces paysans. Et comme j'ai bien dit avant, que ça nécessite l'obligation de créer des coopératives. C'est-à-dire, à travers des données des recensements qu'on va faire, et on saura que tel se trouve dans tel. Il fait ça, et les semences viendront. C'est l'État qui, dans la mission de l'État, il n'a pas tous les moyens, mais et même les paysans, avec la formation, parce que les semences, ou même la formation qu'on va donner aux gens, ça va permettre aux gens d'avoir aussi les capacités, les moyens pour avoir les semences. Je crois qu'il peut m'arrêter à ce niveau-là.
Bien, professeur Céline, les auditeurs sont revenus sur la banque agricole. Quand est-ce que cette banque pourra être opérationnelle?
Merci beaucoup. Moi, je crois que pour ce qui est de la banque, je pense que son excellence, le premier ministre Samalou Kondé l'a annoncé. Je crois qu'il reste encore à son niveau de pouvoir, avec ce service, bien sûr, et le gouvernement en place, de pouvoir déterminer l'opérationnalité, la mise en œuvre de cette banque. Donc, à ce niveau, je ne peux pas répondre à cette question. Je crois que c'est la haute autorité qui peut répondre à cette question. Je voudrais par contre compléter Monsieur Kibompate tout à l'heure en disant que l'incitation et la promotion de la création d'associations et des producteurs ou alors l'organisation des producteurs en coopérative réglera énormément de problèmes. Vous savez, il y en a qui sont déjà en place, comme certains peuvent l'identifier, mais vous savez aussi que lorsque les petits groupes s'organisent comme ça, ils deviennent une sorte de force de grands groupes, il est plus facile de les encadrer, mais aussi plus facile de passer par leur canal pour les organiser. Les organiser comme on ne voit que l'aspect agriculture, mais on ne voit pas la question liée à la santé, par exemple. Donc, par exemple, l'organisation en coopérative peut aussi faciliter aux agriculteurs de sortir de la pauvreté, de vivre décemment, mais aussi d'avoir accès, par exemple, aux mutuelles de santé. Donc, je crois que c'est un point de départ et je crois qu'il ne faudrait pas peut-être mettre la charrue devant le bœuf. Toutes les autres questions irrespérantes pourront trouver leur réponse dès lors qu'on aura déjà organiser ces petits groupes ou les groupes des paysans en un groupe assez organisé et fort, capable de parler pour eux, mais surtout de servir de canal et atteindre tout le monde.
Bien, tout à l'heure, Anissé était revenue sur cette affaire des tracteurs. À l'époque, il y a des tracteurs qui ont été distribués dans chaque province pour aider au développement de l'agriculture, mais ces engins ont été utilisés à d'autres fins. Monsieur Kibompate, pensez-vous que l'utilisation de ces tracteurs va impacter le développement du secteur agricole dans notre pays?
En tout cas, pour moi, ce n'est pas une priorité avec l'accompagnement des tracteurs. Bon, c'est un instrument de travail, mais moi, je pense l'homme, d'abord, on doit commencer par l'homme, former l'homme. L'homme paysan lui-même doit avoir une formation et je tiens toujours à cette histoire de groupe parce que lorsqu'on a des groupes, on va créer même des hangars. Les hangars, on sait que tout le monde peut, voilà, on va récolter, on va placer quelque part et là, on va créer des marchés aussi. Les marchés, que tel jour, il y a tel marché à tel coin et les acheteurs viendront de manière organisé pour acheter les produits de chaque groupe. Et chaque groupe fera en sorte que non, notre groupe ne va avoir un produit de bonne qualité. Vous voyez, quand les gens sont ensemble, chaque idée, j'ai eu la lumière. On essaie de travailler ensemble et avec l'encadrement de l'État que nous sommes, on va essayer de redonner la valeur de l'agriculture.
Bien, on va accueillir Jonathan, Jotan et Kofo.
Je peux ajouter aussi.
Oui, allez-y.
Dans des résolutions, on avait dit la création de la FONADA. Bon, ce sont des moyens, des instruments qui doivent aussi, l'État doit prendre ses dispositions pour que ça soit effectif. Hein, effectif, la FONADA, la Banque Agricole, bon, ce sont des nominations, mais j'ai tout ça, ce sont la même chose. Mais, je pense que ce sont des instruments qui vont permettre à bien travailler pour qu'on relance la production agricole.
Ouais, et la CONADA, c'est quoi, au fait?
Un fonds. Bon, il y a FONADA, fonds de.
Ah, vous parlez du FONADA. Fonds de quoi?
Un fonds agricole, hein? Pour encadrement de l'agriculture, hein?
D'accord. C'est quoi le Fonds national pour le développement agricole? Alors, avant de donner la parole au professeur Céline, on va suivre tout à l'heure. On va donner la parole à Madame Céline Liliane, Madame Lidiane Nambambi, membre de la COPAGEL, qui souhaite que le gouvernement congolais puisse mettre en place le cadre agricole qui aura pour vocation de gérer les espaces fonciers dédiés aux activités agricoles. Les maladies phytosanitaires constituent aussi un handicap dans la production agricole et les revenus également là-dessus. Suivez.
On ne pouvait pas parler l'agriculture avec seulement le français. Il fallait que nous, les petits producteurs, auxquels des thématiques d'aujourd'hui sont en train de tourner. Est-ce pour améliorer et valoriser l'agriculture? Et vous le savez très bien que 70% de nos populations restent dans le milieu rural et notre activité principale, c'est l'agriculture. Maintenant, tout ce que nous avions amené pour l'exposition s'est montré à plusieurs personnalités, à plusieurs intervenants, à plusieurs acteurs qui sont invités à ces assises, de voir que l'agriculture que nous sommes en train de pratiquer, ce n'est pas du français tout simplement, mais à la base, là où il y a la communauté locale, parce que je parlais de coopératives, nous sommes au village, nous sommes à la base, et Copagel organise le village en coopérative. Nous, coopératives, c'est montrer à tous les acteurs possibles qui sont dans ces assises que nous sommes capables. La population congolaise, elle est capable, la population rurale, elle est capable pour produire, et aujourd'hui, nos fruits sont en train d'être exposés. Ce sont des choses qui sont réalisées, pas avec beaucoup, je peux dire beaucoup d'efforts, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Donc,
quelles sont les denrées agroalimentaires qui sont exposées ici? Je vois, on est sur votre stand. Qu'est-ce qui est présenté ici?
Nous avons la farine de maïs, breakfast de première qualité. C'est le maïs que nous-mêmes nous cultivons et nous transformons. Nous avons le manioc que nous-mêmes encore nous cultivons et nous transformons. Et aujourd'hui, tel que vous voyez, il y a même de l'étiquetage, il y a de l'emballage. N'importe qui peut acheter et peut aller manger à la maison directement. Nous avions des arachides également. Nous avions différentes sortes des haricots qui sont semés dans le Haut-Katanga. Et ce que nous vous présentons, nous avons aussi du soja. Il y a de l'ail qui est cultivé dans le village Katanga. Nous avons le pâte d'arachide, donc l'arachide grain est là, et aussi l'arachide qui est transformé est là. Et nous avons aussi également des tableaux. C'est une transformation, une valeur ajoutée de l'autonomisation économique de la femme. De même céréales que nous avons, des fois il nous arrive que sur le marché, il y a de l'inondation, je peux dire inondation de prix. Et tout le monde est là, vraiment, vous ne savez pas.
Les prix baissent, tout ça.
Oui, les prix baissent. Et non seulement que les prix baissent, il y a plusieurs produits disponibles où il n'y a personne qui vous achète. Alors, au niveau de Copagel, on a initié notre dimension de transformation à travers l'art. Et c'est pourquoi vous êtes en train de voir, et les auditeurs sont en train de nous écouter, malheureusement, et ils ne voient pas. Donc, c'est l'art. Et l'art, tel que vous le savez très bien, c'est la création, c'est l'innovation. Et là, ça permet à l'autonomisation économique, mais aussi, ça attire l'attention. Peut-être vous êtes journaliste, vous ne faites pas l'agriculture, vous mangez tout simplement, vous voyez la nourriture sur la table. Mais dès que vous voyez les tableaux, ça vous attire vers l'agriculture, peut-être d'investir, de s'y intéresser, comment on fait, comment je peux faire. Mais aussi, ça vous permet de bien vulgariser le message, parce qu'en tant que presse, en tant que média, vous êtes vraiment des vrais vulgarisateurs pour mobiliser tout le monde à faire l'agriculture.
Là, on est pendant les états généraux de l'agriculture. Vous faites partie du Copagel, qui est une coopérative qui regroupe des fermiers, des agronomes, des paysans. Quels sont vos souhaits, vos suggestions?
Oui, effectivement, à ce stade, nous, en tant que coopérative, nous avons besoin de l'appui institutionnel. Quand nous parlons de l'appui institutionnel, donc, nous voulons que vraiment la politique stratégique sur le secteur agricole soit bien définie par rapport aux axes stratégiques. Et si je dis cela, il y a plusieurs axes. Notamment, on a besoin d'avoir des caisses des crédits agricoles. On ne peut pas développer l'agriculture sans qu'il n'y ait pas de crédits agricoles. Ça, nous demandons au gouvernement, et on espère très bien, parce qu'on a suivi le discours du chef du gouvernement, il en a parlé, donc nous comptons, parce que c'est notre souhait et nous sommes venus avec ça, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais il y a plusieurs années, nous faisons toujours des plaidoyers, des audiences et des audiences pour demander cela.
À Lubumbashi sur 95.8 FM. Okay.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale au Capi Service consacrée aux résolutions des états généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo. Professeur Céline Paulet, rapporteuse des états généraux, et Guy Bompaté, directeur général de l'Office national des produits agricoles, sont nos invités. Alors, professeur Céline, revenons sur le Fonds national de développement agricole, FONADA. Est-ce que ce fonds est différent de la banque agricole qui sera créée?
Oui, hein. Je pense que c'est un fonds qui est très différent dans la mesure où le fonds, en fait, il est prévu dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, promulguée depuis décembre 2011. Donc je crois que c'est quelque chose qui avait été prévu mais qui n'a pas encore vu le jour. Donc je crois qu'il faudra que le gouvernement veille sur cette question. Je crois que c'est très différent. Hein.
Et quelle sera la mission de ces fonds nationaux de développement agricole?
Je ne sais pas vous dire exactement parce que je n'ai pas traité dans le fond, hein, en fait, dans les équipes, on n'a pas traité exactement dans le fond cette question, mais il a été tout simplement fait de recommandations dans la mesure où déjà les dispositions existent et il faudra plutôt créer qu'on dispose d'un décret créant ce FONADA. Je pense que en ce qui concerne le contenu ou la mission de ce fonds, peut-être qu'aux services spécialisés, particulièrement le ministère de l'Agriculture, peuvent répondre à cette question. Je m'en excuse en tout cas.
Bien. Alors, revenons à la réaction de Madame Lydiane tout à l'heure, qui exposait pendant les états généraux, elle est de la coopérative Aide Agricole, elle est revenue sur la mise en place du cadastre agricole pour protéger, oui, n'est-ce pas, les espaces agricoles qui sont de plus en plus poliés. Votre réaction, oui, professeur Céline?
Merci beaucoup. Madame Lydiane a tout à fait raison. En parlant des appuis institutionnels, elle a parlé des cartes de crédit, mais je crois que ça pourra trouver leur réponse lors de la mise en place de cette structure. Je rappelle ici que dans la commission, les différentes commissions, parmi les commissions de questions liées à l'agriculture, il y avait la question des financements. Comment on va faire? C'est vrai que pendant longtemps, on fait le développement des plaidoyers. On continue, mais dans les commissions, il a été formulé une recommandation dans le sens de redynamiser les organes de suivi de contrôle des subventions du ministère de l'Agriculture. Ça vient du public, en fait, le financement public. Je crois que ça pourra répondre à sa question. Dans la suite, je crois que ces appuis et actes stratégiques institutionnels aussi pourront trouver des réponses, hein, à moins que je ne réponde pas exactement à la question qui a été posée, si vous pouvez bien.
Monsieur Guy Bompaté, qu'est-ce que votre réaction par rapport à cette question des cadastres agricoles?
Oui, cadastre agricole, je crois que je trouve que c'est bienvenu parce qu'il y a beaucoup de spoliations, il y a un conflit entre le cadastre, de l'affaire foncière et le cadastre minier. Et jusqu'à présent, il y a même des problèmes pour que les cultivateurs, les planteurs ont des problèmes de terre. Récemment, nous disons même ici aujourd'hui que non, il y a les femmes n'ont pas de terre, les terres réservées aux hommes. Ouais, ce sont des choses qui créent des problèmes. Même les jeunes aujourd'hui, les jeunes veulent faire l'agriculture, mais ils ont un problème d'espace. Il y a des provinces même dont les espaces sont, je prends dans le cas de l'Orkivu, et c'est trop cher. Là où on fait l'exploitation des minéraux aussi, pas avoir l'espace pour faire l'agriculture, c'est tout un problème. Et puis, il faut qu'il y ait un cadastre, le Congo a autant d'espace, mais cet espace, il faut savoir quel est cet espace. C'est pour cultiver, pour faire construire des villes, espace, c'est pour l'environnement. Non, on doit identifier des espaces, en fait, et qui doit faire ce travail. Ce travail, ce sont des cadastres agricoles. L'État doit définir sa fonctionnalité, comment ça s'est passé pour me c'est faire dans le cadastre minier, cadastre affaires foncières. Voilà un peu le besoin de cette résolution que l'agriculture ait son un instrument pour les chefs à déclarer la revanche du sol sur le sous-sol.
Sur le sous-sol.
Mais il faut qu'on identifie l'espace pour nous pas de problème de conflit de compétences entre cadastre minier, cadastre agricole, tout ce sont des choses que l'État doit identifier. C'est comme ça on a pris comme une des résolutions des États généraux.
Bien, bon. On va accueillir un auditeur, Malonga, depuis Bandundouville. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour, aujourd'hui, Daniel Kachama. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent et à nos invités là-bas.
Nous revenons sur les résolutions des États généraux de l'agriculture. Quelles sont vos préoccupations à ces sujets?
Ok, merci beaucoup, en tout cas, je dis. Comme vous venez de le dire, vous savez, nous avions traité aussi ce même sujet, mais ce que tous ont dit, en tout cas, c'est normal. Mais moi, je vois que dans notre pays, l'agriculture existe et nous vivons de l'agriculture. Si nous parcourons dans toutes nos villes, dans tous nos grands centres, dans tous nos villages, et nous vérifions dans les grands marchés, dans les petits marchés, en tout cas, nous verrons vraiment des légumes, des céréales, de tout ce qui vient de l'agriculture. Mais ce qui est demandé de l'agriculture, c'est l'encadrement. L'encadrement. Les villageois bien les paysans qui nous nourrissent aujourd'hui de cette anarchie agricole, ils ont besoin d'un encadrement, d'un suivi, d'un support gouvernemental. Alors, il faut une politique agricole qui doit encadrer ces agriculteurs et vous verrez que notre agriculture sera bien relancée. Vous savez, dans la fois passée, peut-être c'est moi qui l'avais dit encore, qu'on avait envoyé des tracteurs, vous l'avez évoqué aussi, le président Joseph Kabila avait pensé de cela. Mais ce qui manquait, c'est la politique, la bonne politique des gouvernants. Lorsque c'était arrivé dans des provinces, en tout cas aujourd'hui, c'était vraiment grave, c'était grave. Des ministres provinciaux, des députés provinciaux, voire même le gouverneur, utilisaient ces tracteurs de la champêtre. Alors nous, la population, nous étions les observateurs, on voyait que c'est comme ça. Alors comme le président aujourd'hui vient relever ce qui manquait à Kabila, s'il vous plaît, je me rappelle, puisque le président Kabila lui-même, dans son discours, il avait dit qu'il a fait tout pour les Congolais. Mais ce qui lui a manqué, c'est la mentalité. C'est par là où Tshisekedi a commencé. Aujourd'hui, je suis un fonctionnaire de l'État, aujourd'hui, je vais vous informer. J'ai mes agents et j'ai mes chefs. Mais,
désolé, il y a eu coupure, Malonga n'est plus en ligne. On a quand même retenu l'essentiel de sa pensée. Il faut qu'il y ait une politique agricole claire pour développer le domaine de l'agriculture. Professeur Céline, votre réaction? Quelques soucis aussi avec la ligne de professeur Céline. Monsieur Guy Bonpaté, vous êtes là? Oh là là, il y a sûrement des problèmes sur toutes les lignes aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va, voilà, il y a quelques soucis au niveau de toutes les lignes. Les intervenants ne sont plus accessibles. Nous parlons aujourd'hui dans Okapi Service des résolutions des États généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo. Le temps de fixer ce problème, nous allons souffler un tout petit peu en musique et on se retrouve tout à l'heure. Merci d'écouter Radio Okapi, une voix pour tous, Okapi Service, émission spéciale États généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo. Nous avons eu quelques soucis avec les lignes téléphoniques qui ont complètement coupé et donc les invités ne sont plus en ligne. Par ailleurs, nous allons vous proposer la réaction du ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Biranze. Il s'est exprimé lors de la conclusion des travaux qui vont contribuer à la modernisation de l'agriculture sur l'ensemble du territoire national. Voilà, c'était à la fin de ces états généraux. Suivez.
Étant donné que la population des villes s'accroît très rapidement, avec comme conséquence une forte demande alimentaire urbaine qui ne peut être satisfaite que par des produits alimentaires transformés et importés, notre gouvernement, pour y faire face, attend mettre en œuvre les conclusions de ces assises en vue de moderniser l'agriculture, augmenter les surfaces cultivées, accroître la production et améliorer les revenus des producteurs. Pour ce faire, le ministère de l'Agriculture va servir de levier pour diversifier la base économique de notre pays en impulsant la modernisation de l'agriculture par l'utilisation des moyens techniques et technologiques modernes afin de promouvoir nos industries locales pour la transformation des produits agricoles issus de nos terroirs.
Bien, voilà, c'était là. La réaction du ministre de l'Agriculture lors de la clôture de travaux des états généraux de l'agriculture. Alors, quelques réactions. Merci à tous les internautes qui ont réagi par rapport à cette thématique. Fiston Piana de Colosi nous dit « Prétendre promouvoir l'agriculture avec des ou est insensé. Il faut industrialiser l'agriculture partout à travers la République si on espère développer ces secteurs. » Patrice Mouderois, à mon avis, je pense que les résolutions issues de ces états généraux doivent consister au financement de l'agriculture, à la définition des rôles que doivent jouer non seulement les techniciens en développement rural et les ingénieurs agronomes, mais aussi les rôles que doivent jouer tous les acteurs impliqués. Ces résolutions devraient également prendre en compte les infrastructures agricoles, routes et dessertes agricoles, eau, électricité, marché, etc. On doit tenir aussi compte du facteur sécurité. Garde aucun ignore que plusieurs paysans ne savent pas vaquer à leurs activités agricoles à cause de l'insécurité. On doit cibler les grands bassins ou parcs agricoles selon chaque province, selon les types d'agriculture adaptés. Certains parlent même des zones économiques spéciales. Voilà, c'était là la réaction de Patrice Mouderois depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Laurent Mignon, l'IPASA depuis Kananga, je pense que les états généraux de l'agriculture organisés par le gouvernement ont leur place, on devrait avoir lieu afin d'évaluer ces secteurs agricoles comme tout premier socle de développement. L'État devrait subventionner les opérateurs agricoles et les entreprises qui évoluent dans les secteurs afin de relancer les tissus économiques. Créer la banque agricole, imposer à tout dirigeant politique d'avoir un champ orienté avec utilité les fonds dans ces secteurs et non les utiliser à des fins propres et politiciennes. Fariel Malassa depuis Kinshasa, je salue l'organisation de ces états généraux qui consiste à redonner la valeur au sol congolais, très fertile, mais abandonné par les politiciens qui tiennent mordicus qu'on mine pour s'enrichir. Il est temps que ces états généraux ne restent pas sur le papier, qu'on mette cela en pratique, étant donné que l'agriculture est un secteur très capital qui peut booster le développement, qui a boosté le développement de beaucoup de pays. Nous avons un pays riche, mais la population continue à souffrir. Simon Mouya Chabani, depuis Kananga, j'espère bien que la tenue de ces états généraux tombe à pic, mais la réalisation de toutes ces résolutions reste un problème dont on ne connaît pas son adversaire, une guerre dont on ne connaît pas son adversaire, au moment où on étudie pas la réalité qui sévit dans les secteurs agricoles. Ainsi donc, pour moi, parce que l'agriculture au Congo se trouve entre les mains des petits producteurs, on doit commencer par la vulgarisation des meilleures techniques agricoles, créer des banques à des crédits agricoles, subventionner tous les intendants agricoles, permettre l'accès facile aux terres agricoles, mettre à la disposition des agriculteurs les moniteurs agricoles, comme c'était à l'époque coloniale, avoir une politique agricole nationale, construire ainsi les routes, aménager les routes des dessertes agricoles, et que l'État crée une banque des semences améliorée pour les agriculteurs, etc. Nous prions pour que ce slogan « prendre la revanche sur le sous-sol » ne reste pas une phrase, que cela ne reste pas un simple slogan, mais que cela doit être concrétisé. Voilà quelques réactions des internautes sur la page Facebook d'Okapi Service par rapport à ces états généraux de l'agriculture. Dommage, on ne sait plus relancer nos invités à cause de quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de La Vie au quotidien. Au Capi Service, émission spéciale consacrée aux états généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Marcel Gombo a assuré la coordination. Tati Mapouko était à la réalisation avec Céleste Massoudi. Et à la mise en nom de Jean-Noël Mokondo, Jody Daniel Kachama au micro. Tout le plaisir était pour nous de vous tenir compagnie pendant ces deux heures. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.
À la prochaine.
Merci.